de souffler.
Oh, tu m'énerves. À tout le temps regarder la télé, tes matchs de foot, là. Oh, j'en peux plus, là. Je suis littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti. C'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il? Serait-ce à nouveau Satan d'imite?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut.
Voilà.
Quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Eh bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur Principe Actif, sur l'antenne de Principe Actif, dans Ta mère en short, l'émission qui vous parle de sport. On revient après deux semaines de trêve hivernale pour cause de blessures, de tendinite, etc. Aujourd'hui, pour m'accompagner, il y a l'ami Deuze. Salut à toi, camarade.
Bonjour.
Et Guillaume de Pickup, mais aussi Guillaume de l'EVB.
Ouais, c'est ça. Maintenant, ça va être un autre surnom. Je suis de pas mal de choses, en fait.
Mais aujourd'hui, tu seras Guillaume de Pickup de l'EVB.
D'accord, encore mieux.
On vous parlera donc basket, on vous parlera volley, on vous parlera football, on vous parlera handball. Voilà.
Et on aurait dû parler aussi d'autres choses, mais ouais. Malheureusement, ça ne se fait pas.
On aurait dû parler de Qigong, mais notre invité vient de nous signaler qu'il ne serait pas là. Ou en tout cas, il ne sera pas là, visiblement. On commence par le traditionnel tour de table pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Guillaume de Pickup de l'EVB.
Ouais.
Des choses à dire en matière de sport en général, pas forcément sur le volet féminin et borussien. Plus largement, est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu ton attention dans le week-end ou dans la semaine écoulée ?
Bah, j'ai deux choses. On va parler déjà de biathlon. On a une double championne du monde qui a gagné donc à la fois la poursuite et je ne sais plus quelle autre épreuve, donc Marie Dorin. Et donc voilà, c'était à signaler. Bon, certes, c'est un peu plus facile parce qu'en fait, quand on gagne la première course, on part en tête de la poursuite. Mais en même temps, elle partait avec, je crois, à peine 10 secondes d'avance. Donc finalement, c'est quand même aussi une grosse perf. Donc félicitations à elle. Les garçons se sont un peu mangés de l'autre côté, Martin et Simon Fourcade. Mais bon, voilà, c'est un sport où en général on carbure plutôt bien aussi le biathlon.
Il n'y en a pas un des deux Fourcade qui a annoncé qu'il prenait sa retraite prochainement ?
Je sais pas, peut-être Martin, je crois que c'est le plus vieux.
Celui qui était fort partout.
Non, c'est Jason Lamy-Chapuis.
Ah oui, d'accord, je confonds.
En combiné nordique qui a annoncé sa retraite, effectivement. Et j'avais un autre truc qui m'a vraiment agacé, c'est Nabil Fekir. Parce que ça a beau être un excellent joueur, là c'est retournement de veste sur je vais jouer pour l'Algérie, puis je vais jouer pour la France, puis non, il va rejouer pour l'Algérie bientôt, enfin on sait plus. Et j'ai envie de dire, garçon, arrête de communiquer, tu joueras pour l'Algérie ou pour la France un jour ou l'autre, mais pour l'instant, arrête de te prononcer, quoi. Enfin, c'est un petit peu énervant quand même.
À sa décharge, on peut comprendre qu'un jeune joueur comme ça puisse hésiter, il se sent aussi, autant algérien que français.
Mais il n'est pas obligé de le dire par voie de presse, quoi. Il peut aussi ne pas se prononcer. Et puis, juste attendre le moment et puis décider de son choix quand il se fait vraiment appeler en sélection qu'il fait, quoi.
Oui, je pense que s'il avait maîtrisé mieux sa communication, en effet, il se serait rendu compte qu'il n'avait pas besoin de faire parler autant et que ça lui joue des tours. Bon, après, c'est pas si. C'est grave que ça, je pense que ça, dans un an ou deux, ou même dans six mois, on aura oublié.
Il y a pas mal de problèmes de com' à l'OM en ce moment, de façon, avec Olas et tout ça. Mais en tout cas, belle victoire 5-1 hier. Et avec leur équipe, c'est vraiment beau de les voir en tête du championnat, même si je ne suis pas fan de l'OL. Voilà.
Amis deux, il y a Philippe Guinchard de Rinfo La Dépêche, la Guinche qui vient de nous rejoindre. Il revient de blessure, visiblement. J'ai eu des échos. On va peut-être prendre le temps d'en parler. Mais avant ça, que Philippe se soit rapproché des micros, sur ce tour de table, actualité sportive en général.
Ouais, ça va être un petit peu basketballistique.
Ça alors
Non, mais c'est vrai que ça m'a marqué. J'aurais pu vous parler de pas mal de disciplines. Là, l'événement marquant, selon moi, reste quand même l'évinction du coach de basket de Monaco. Monaco qui est, on rappelle, dans la même poule et division que notre ALM Évreux. Deuxième au classement, qui ont tapé les leaders hier Toulon, il n'y a pas plus tard qu'il y a 8 jours. Et en fait, énormissime rebondissement, puisqu'en fait, le coach qui avait fait monter l'équipe de National 1 en Pro B et qui est donc deuxième au championnat et qui sont toujours capables de griller la politesse au HTV, s'est fait lourder ce dimanche, voilà, par un excès de zèle quelque part du président et mécène monégasque, puisque en fait il avait promis à un de ses joueurs, tout fraîchement recruté, un intérieur américain qui évolue en Ukraine avec un gros CV, qu'il jouerait. Sauf que ce n'était pas le choix de l'entraîneur, qui dispose effectivement, et c'est un peu particulier, on pourrait développer sur le sujet, de 5 joueurs étrangers, alors qu'on rappelle que sur une feuille de match, on peut en mettre que 3, qu'il y a en plus des nouvelles restrictions dans la Ligue, dans le championnat, avec on ne peut pas faire plus de tant de contrats. Quand on voit d'ailleurs comment on peine à Évreux et qu'il ne reste plus qu'une possibilité, eux se permettent le luxe d'avoir 5 Américains potentiels, enfin 5 joueurs étrangers parce qu'ils ne sont pas tous US. Eh ben non, le mécène et président a voulu imposer un joueur. Le coach ne voyait pas l'intérêt puisqu'en fait, il avait des joueurs blessés sur les lignes arrière et il a préféré garder ses 2 joueurs US ailiers et meneurs. Et donc, ça n'a pas du tout plu au mécène qui a tout simplement lourdé, viré le coach. C'est quand même une histoire de gros sous et un peu, et je trouve, d'abus. Je ne sais pas ce qu'il en pense, Philippe, sur le sujet. Salut à toi.
Bah oui, salut.
Écoute, hallucinant quand même.
Surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que ça prouve aussi que des clubs qui sont créés par l'argent peuvent aussi périr par l'argent, parce qu'ils vont se retrouver avec un gros problème justement de continuité. On risque aussi de voir une implosion du groupe, parce que t'as des joueurs qui sont forcément impliqués quand ils sont deuxième au classement. Effectivement, comme tu l'as dit, là, ils venaient de taper hier Toulon, et ils étaient plus que jamais pour moi favoris, parce que hier Toulon va avoir de plus en plus de mal, avec le peu de rotation qu'ils ont, à tenir le rythme. Je pense qu'effectivement, c'est Monaco pour moi était l'équipe qui pouvait avoir la première place cette année dans un championnat très très ouvert. Et là, il fait une énorme boulette. Mais bon, voilà, ça c'est le problème.
Déjà remplacé, hein, par un gros
oui,
CV.
Oui,
hein.
oui, mais bon, voilà. Mais bon, après c'est du micmac. Moi, j'ai lu la semaine dernière un article sur le président Béral, qui est très élogieux dans Basket News, Hebdo, je ne parle plus jamais Basket Hebdo, Basket News, je ne parle plus comment ça s'appelle, la revue Hebdo.
5 majeurs, non ?
Non, ça va pas. Non, Basket News, je crois. C'est, et donc, l'article est très élogieux, mais en fait, pour moi, ça marche en marche sur la tête. C'est-à-dire qu'en fait, on met vachement en avant les finances, les structures et tout le machin, le sport à l'américaine. C'est pas notre culture. Je pense qu'il va falloir qu'un jour on se rende compte. Je pense que les vrais amateurs de basket, ils se retrouvent beaucoup plus, par exemple, dans l'Euroleague que dans la NBA au quotidien, même si la NBA a des super matchs en playoff et tout ça. Je pense, voilà. C'est pas notre culture. On essaie de copier bêtement et on n'adapte pas du tout à notre championnat à notre culture, le sport qu'on vit à l'heure actuelle. Je pense que c'est une grosse boulette, mais voilà. De toute façon, Monaco, c'est pas en France, donc on s'en fout, hein. On s'en fout. Ça n'a rien à voir. Pareil, accepter Monaco pour la modique somme, je crois, de 150 000 euros, qui est peanuts pour eux, d'une amende, ça ne correspond pas du tout à la réalité des aménagements fiscaux dont ils peuvent bénéficier. Et on se retrouve là, du coup, avec un championnat à 2 vitesses.
Oui, tronqué, clairement.
5 joueurs non JFL, c'est ridicule. Enfin, voilà, pareil, il doit aussi y avoir des quotas par rapport à ces choses-là. Et puis aussi, il y a une sorte de gentleman agreement, comme on dit, c'est d'arrêter. Est-ce que voilà, on fasse la course à la surenchère, quoi. Donc oui, par contre, pour moi c'est une énorme boulette, parce que même si le boulot que faisait Vucevic depuis 2 ans était un vrai boulot d'homme de terrain, c'est un très bon coach, voilà, il est très calme, et j'avais trouvé très très digne dans la défaite. En plus de ça, vraiment il était très très bien quand il est venu jouer à Évreux, on le connaît, ça fait plusieurs années, c'est un gars qui est passé, c'est vraiment l'école des pays de l'Est, comme on aime bien, quoi. Et voilà,
c'est un mec pour moi, c'est une qui a la classe qu'on jette comme un malpropre.
Oui, bon, puis je pense qu'il s'en fout, hein. De toute façon, voilà, lui je pense qu'il est resté droit dans ses potes, et ça c'est vraiment très bien, ça.
C'est vrai que c'est surprenant s'ils sont deuxième au classement. En général, on dégage un coach quand on a des très mauvais résultats, parce qu'on attend un électrochoc pour le groupe.
C'est comme si, par exemple, le PSG se libérait Laurent Blanc.
Oui, ce serait assez surprenant. Ouais. On se demanderait. Ouais. Même si c'est vrai qu'on peut, avoir des faiblesses sur Laurent Blanc, c'est vrai qu'on on le trouve quand même plus solide, notamment dans sa com'. Alors, en comparaison que quand il était...
Tu trouves, hein? Ah, moi je le trouve très chiant.
Non, mais en comparaison de quand il était à la tête de l'équipe de France, c'était quand même assez délicat pour lui et pour les médias d'avoir une vraie discussion. Là, je le trouve assez pédant, mais au moins, il maintient le cap du Paris Saint-Germain.
Je trouve surtout qu'il perd ses nerfs à chaque fois, quoi. Dès que tu lui poses une question et tout ça, il a l'impression de se sentir agressé. Et lui, il agresse en retour, quoi.
C'est des mecs qui gagnent beaucoup d'argent, mais en fait, malgré ce fait de gagner beaucoup d'argent, ça leur fout une pression énorme, en fait, alors qu'en fait, voilà, ils pourraient être très sereins en disant, voilà, de toute façon, Pierre Descartes me dégage.
À sa décharge, Philippe, messieurs, à sa décharge, il est coach du Paris Saint-Germain à Paris, où sont concentrés 99% des médias nationaux, radio, presse, télé, où on leur casse les pieds, où tout est scruté. Après, ça fait partie du, ça fait complètement partie du jeu. Mais à un moment donné, les mecs sont super relous, je veux dire, même des fois dans les questions, je veux dire.
Je suis assez d'accord.
Sur le sujet du journalisme, mais ce sont les on pourrait aller loin, quoi. Justement,
quand tu vois, je trouve que c'est des mecs quand même qui ont un vécu énorme dans le sport, qui ont vécu des belles années, des années fastes au niveau de l'argent. Ils sont à l'abri de tout. Il a un palmarès énorme et ils n'arrivent pas, malgré justement cette richesse intérieure, à avoir un peu de distance, un peu d'humour et se dire voilà, je m'en fous. Continue à me parler, mon Bezos. Moi, je m'en cogne un peu, quoi. Et puis voilà, si je suis viré, ça fait partie du business parce qu'ils sont à fond dans le business, ils savent très bien où ils sont. Et je trouve que c'est un peu moche de ne pas avoir un peu plus de recul et tout ça.
Bon. D'autant que quand on écoute le président qatari du Paris Saint-Germain, on le sent pas mettre plus que ça la pression sur Laurent Blanc. Alors peut-être qu'il y a des choses en interne qui ne sont pas révélées. Mais...
Aujourd'hui, il y a le Sun, je crois, qui a dit que Blanc sera l'année prochaine soit en Angleterre, soit
à Manchester.
Soit en Italie. J'étais surpris parce que je pensais que c'était plutôt l'Espagne. Bon, voilà, il paraît qu'il a des grosses approches et qu'il pourrait partir de lui-même et s'asseoir sur sa dernière année de contrat. Bon, voilà. Mais enfin, moi, franchement, on parle beaucoup plus de ça que de jeu. Enfin, je trouve que le jeu du Paris Saint-Germain par rapport à l'an passé, il n'est pas terrible. Il est beaucoup moins bien que l'an passé. Voilà, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi, je dirais, avant le PSG-Chelsea de mercredi soir. Hein.
Bah, ils sont bien revenus, là. On a vu trois beaux matchs des trois leaders de la Ligue 1. Guillaume en parlait tout à l'heure avec le match de Lyon hier. Marseille, vendredi, c'était... moi, je n'ai pas vu, mais c'était énorme. Et puis celui du Paris Saint-Germain, chacune de ces trois équipes a mis au moins un but magnifique. Il y a eu le but de Pastore sur une passe en louche d'Ibrahimovic. Il y a eu un but de Batshuayi qui était énorme. Et le 1-2 entre Fekir et Gourcuff d'hier soir a montré dans toutes les écoles de football.
Il marque 15 buts à trois équipes. Ouais. Les trois équipes de tête marquent 15 buts, c'est bien.
Ça faisait suer hier soir parce qu'en fait, j'étais parti pour parler aujourd'hui à quand délocaliser le match du vendredi soir, le dimanche soir. Parce qu'en fait, le dimanche soir,
souvent on s'ennuie.
Tu sais, c'était une phase et malheureusement, hier, tant mieux plutôt. Pour les amateurs de foot.
Ouais, bah voilà, moi, hier soir, c'est pour la première fois, je me suis assis parce que j'avais pas le choix. Je peux plus marcher, donc je me suis assis devant le foot hier soir et j'avoue que je me suis bien régalé parce que c'était vachement intéressant comme match.
Ouvert. Tu veux tout nous dire? T'as des vergetures? T'es constipé? T'es quoi?
j'ai un petit tendon inflammé.
Ah, ça va.
J'ai voulu faire le Jones, mais c'est pas. C'est
Monsieur
pas
bon. Guimauquet, vous avez noté quoi dans l'actualité? C'était ça le sport?
Ouais, on en a parlé assez. Il y a les Six Nations qui reprennent. Voilà, et puis en rugby...
On n'en a pas parlé de Philippe Saint-André qui était mignon. On avait envie de le réconforter quand il s'est agacé. Ça m'a touché.
On parlait des entraîneurs qui avaient un peu de mal en communication.
Il fait partie du club Laurent Blanc,
Saint-André, c'est pas le champion non plus.
C'est un très gros timide déjà, faut le savoir. Moi, je l'ai rencontré quand il est en 1 contre 1, c'est un mec adorable et très. Et on se rend compte que voilà, lui, par contre, il n'est pas du tout formaté à cette chose-là. Et ce qui est curieux, c'est qu'il était beaucoup plus à l'aise quand il était en Angleterre, parce qu'il maîtrise bien l'anglais. Et en Angleterre, il était beaucoup plus parce qu'il réfléchissait. Enfin, il était là. En fait, on sent qu'il se sent agressé parce que il est sous pression. C'est moche parce que je pense que ça le fait aussi. Ça le rend pas sympa, alors que c'est vraiment un mec bien Philippe Saint-André.
Ouais, moi c'est... J'ai pas une mauvaise image de lui, je sais pas que je le trouve sympa ou pas sympa, je le trouve plutôt sympathique, mais c'est vrai qu'il y a une telle pression, notamment de la presse française, et en même temps c'est l'équipe nationale, donc c'est normal qu'il y ait un minimum d'attente. Après, voilà, c'est un jeu à deux qui se fait entre celui qui reçoit la pression médiatique et les journalistes qui la mettent. Est-ce qu'il surjoue pas un peu aussi cette pression-là pour se mettre dans un rôle de victime inconsciemment, je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il reste qu'en matière de résultats, c'est en effet un des plus mauvais sélectionnaires en termes de résultats.
Résultats et du jeu pratiqué, parce que le jeu pratiqué,
il n'y en a pas.
Ça, c'est vrai. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aussi, contrairement au football, où effectivement, ils ne sont jamais aimés taquinés par les journalistes, le rugby, ça doit intégrer complètement ces choses-là. Il y a Pierre-Michel Bonneau qui nous régale à chaque fois sur ses articles dans l'équipe, là, qui a toujours été vraiment une sorte de picador des coachs. Et quand ça ne va pas, il le dit franchement. Et quand ça va bien, ils trouvent quand même toujours le petit truc, mais ça fait partie de la culture, ils l'ont toujours accepté cette chose-là. Et d'ailleurs, il y a très peu de, il y a très peu de joueurs qui s'offusquent de ce qui est dit sur eux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même encore cette tendance-là, même si le professionnalisme a, a aussi la fâcheuse tendance à rendre les joueurs plus susceptibles. Mais voilà, il y a quand même cette culture de la, l'autodérision ou l'autocritique au moins.
On s'accorde une pause musicale et puis on s'attarde plus en longueur sur les résultats des clubs hébroïciens.
De fond, j'ai besoin de lumière, de réponse à mes questions. Mon cerveau en péril réclame en vain sa nourriture. La qualité, la finesse et le style, pas de la pourriture. Donne-moi l'ivresse de pensées claires et limpides, de mots vrais qui vieillissent et ne prennent pas une ride. Je suis bien trop curieux pour me contenter des miettes, rester condamné à n'évoluer qu'au ras des pâquerettes. À l'air permanente, je veux rester réveillé, affûter mes vers pour me défendre sans bégayer. Déjouer les pièges et éviter les raccourcis. Vite le temps est mon ennemi si le champ se rétrécit. Donc faut que j'emmagasine, puis que je laisse aller la prose sans renier mes origines. Et bien avant que je me décompose, vite besoin d'évasion, de source d'inspiration, de toutes ces voix qui ouvrent le chemin de l'émancipation. J'ai faim.
Been chasing flavor, foaming at the mouth with the bad behavior. But all I want is a merely a concept to find my path as I find my step. See the kids that seem so famished, they want direction cause they needs is vanished. I'm munching on the cools like a praying mantis. My need for the new shit stay established. Mouth is dry and the word is like pasties. Dark cave, I'm looking for the keys. Not every MC holding knees, but I can break out every time I please. Tomato pasta, chives and cream, more culture than you ever dreamed. I get my style from feeding my craving, and that's the good shit that you now tasting.
Oui, j'ai faim. Une faim crève la dalle. Un appétit féroce qui peu à peu sort de la cale et qui salive. À l'approche de chaque nouveau niveau, je me renforce, m'endurcis. J'ai les crocs, paroles de Moricaud. Claque le bec des pédants, des prétentieux. Dans ma bouche, la langue française prend l'accent de la banlieue. Et c'est tant mieux, ça dérange, ça devient explicite. Tout d'un coup, les oreilles sifflent car le contenu est illicite. Oui, le prolo s'exprime et le propos est maîtrisé. Incroyable, viens, tu vas te faire ridiculiser. À me prendre pour un con, je crois que j'ai fini par comprendre. Si le savoir est une arme, maintenant voilà ce que ça engendre. J'irai pécho les munitions dans les livres, au cinéma, sur le net, au théâtre comme au bistrot, pas de chez moi. Et je te pilonnerai d'un ton froid et ferme, conscient de la puissance d'une idée qui arrive à terme. J'ai faim, 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 faim.
La Canaille, le morceau s'appelle J'ai faim et c'est extrait de son deuxième album sorti en 2011 qui s'appelle Partant de rage. Voilà, pour être tout à fait complet. On passe aux résultats des clubs locaux hébroïciens. Guillaume de Pickup de l'EVB, on passe à l'EVB ou vous voulez attendre 3 minutes le temps de prendre...
Juste 3 minutes le temps, okay, de faire des petits calculs en fait sur la suite du championnat.
Alors avant de parler de l'EVB et de l'ALM avec Philippe et Damien, on va parler rapidement de l'EFC 27. J'ai deux résultats parce qu'il y avait un match de coupe de Normandie le 1er mars, on n'en avait pas parlé. 6ème tour, victoire 4-0 sur le terrain du Neubourg. Et là en championnat ce dimanche, ça a gagné 3-2 sur le terrain de Gagny pour la 16e journée de DH, on rappelle. Donc, ils sont toujours premiers au classement.
Cool.
Et ça sent plutôt bon pour le FC 27.
Ça pourrait être la CFA 2 l'année prochaine, quand même.
Ouais, ben ouais. Le Passy a perdu, en plus. Passy a perdu à Rouen 1-0. Donc, c'est dommage pour Passy. Mais il y a un très beau match la semaine prochaine. Il y a Passy-Évreux la semaine prochaine, le 15 mars à Passy. Celui-là, il va valoir son pesant de cacahuètes. Ça peut être vraiment un beau match. J'espère que le jeu, d'ailleurs, va primer sur l'enjeu.
Ouais, c'est souvent...
C'est un peu tendu, mais je trouve que ça, c'est les clubs se sont bien repris. Je trouve qu'ils sont mieux dans l'esprit. Et voilà, c'est deux très bons coachs, Manuet à Passy et Darman Dillin à Évreux. Ça devrait pouvoir donner un match sympa. Voilà, il faut espérer que les joueurs jouent le jeu aussi, n'y a pas une pression trop importante de mise sur les gars, mais ça, ça peut être un match sympa. Ouais.
Il a l'air de se passer un truc plutôt positif cette année à l'EFC 27, ouais. Les résultats sont là en tout cas.
Et malheureusement, enfin, on n'a pas les mêmes retours en coulisses. En coulisses, on annonce que bah, justement, ils espéraient faire venir des investisseurs, comme on dit maintenant, voilà, pour amener un peu d'argent pour bah, des fonds privés, je dirais, pour que la municipalité suive. Or, la municipalité n'a pas l'air de vouloir suivre à hauteur de ce que le président Le Petit souhaitait. Et ça risque de remettre le projet ambitieux de voir le club en CFA sous 3 ans. C'était à peu près ça qu'on espérait en cause. Alors, bon, la CFA 2, je pense qu'il n'y aura pas de soucis si ça monte. Mais par contre, c'est vrai qu'après, il va se poser le problème d'un petit peu de brosouf.
AC Rugby, ça jouait pas. Voilà. Ouais. J'ai rien à dire.
Je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais.
C'est le match promis à Hérouville qui a pas eu lieu la semaine dernière et qui va avoir lieu la semaine prochaine. Alors, c'est le match vraiment. Bon, si des gens veulent croire au rugby et
il faut le gagner.
Il faut y aller. Les supporter. C'est à Hérouville. Ça va être un match tout pourri parce que c'est pas une équipe très sympa. Et il faut gagner. Faut les écraser 3-0 ou une grosse cocotte à la dernière minute. Mais faut gagner parce que sinon, je pense qu'on est. Ouais. On est très carré, on retournera.
On peut dire aussi à la 80e.
Ah oui, ouais. C'était très joli.
On peut dire ça maintenant.
C'était très joli ce drop dans les.
Il y a eu des super matchs.
Ah ouais, ce week-end c'était bien.
Un super drop.
Le Smith aussi, là, de l'ailier de Toulon, là, qui a été énorme. Ouais.
Magnifique. Ouais.
Davis ou Smith? Smith
Ouais, je crois que c'est Smith.
D'accord.
Parce qu'il y a deux Smiths. Il y a un Juan Smith qui est flanqueur et il y a un ailier, mais je crois que c'est Smith aussi.
Bref, pardon.
Vous êtes prêt pour le VB? Ouais, c'est bon.
On n'a pas parlé de Saint-Sébastien aussi avant de faire la part belle à l'UVB.
Baston.
Victoire à domicile 27-23 contre Saint-Valery, la seule équipe qui les avait battus jusqu'alors, nous écrit le coach Anthony Morel. Première mi-temps bien terne, joué sur un rythme plus proche des vétérans que d'autre chose. Un deuxième acte.
Qu'est-ce qu'il y a contre les vétérans?
Bien plus.
Il se pète le genou.
Un deuxième acte bien plus enlevé, l'écart est monté jusqu'à plus 9. Avant que tout le monde profite de la fête, il reste 6 matchs, ils ont 5 points d'avance sur Gonfreville pour le titre et 9 points sur Deville pour la montée. Ça sent bien bon. Voilà, déplacement à Coursol samedi 14, puis réception de Deville, le dimanche 22 à 16h pour valider à N3. Ça sent quand même très bon du côté de Saint-Séand et ça fait très plaisir.
Ouais, c'est très chouette. Ouais. Une belle histoire.
Ouais. Allez, voler ce coup-ci.
Moi, belle histoire, maintenant.
C'est mes 4 minutes. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quelque chose d'aussi terne. Donc, on recevait, le VB recevait Albi au Gymnase du Canada. Ça s'est soldé par une défaite 3-7-0, donc 25-17, 25-23 et 25-18.
Grosse équipe d'Albi en plus. Hein.
Grosse équipe d'Albi à 7 joueuses en fait. Il n'y avait pas de banc tout simplement. Il y avait juste la libéro. À 7 7-7. Si, tu avais 6 joueuses plus une libéro. Voilà. Et c'est pas dur, t'as une équipe qu'on voulait, c'était Albi. Elles avaient encore une maigre chance de se qualifier en espérant que Chamalières fasse un faux pas et que ce soit la même chose à la dernière journée. Bah, donc elles ont joué leur truc à fond, elles se faisaient plaisir. Du côté d'Evreux, ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus comme ça, il y avait pas une grosse cohésion. C'était le même set que sur les 6 ou 7 victoires d'affilée qu'elles ont enchaînées en championnat. Comme le dit le coach, Elles n'ont pas eu envie d'aller chercher la première place, quoi, tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de réaction vraiment. Il rentre les remplaçantes en troisième set. Ça n'a pas changé grand chose, juste sur quelques points. Mais enfin voilà, vraiment, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. C'est un peu inquiétant parce qu'on joue quand même Mougins à l'extérieur la semaine prochaine, qui est qualifié en play-off avec nous. Il faudra à tout prix les battre pour se mettre en bonne position parce que là, des deux côtés, que ce soit Pool B, donc pour nous, il y a Évreux, Mougins, Chamalières de qualifiés, ça c'est déjà fait. De l'autre côté, Vendeuvre, Quimper et Calais. Donc ça aussi, c'est fait. Et donc, on va rappeler juste le règlement pour la phase suivante, c'est qu'on garde les points contre les équipes qualifiées avec nous. Parce qu'on ne va pas rejouer Mougins et Chamalières, par contre, on garde les points qui sont gagnés contre eux. Donc pour l'instant, on en est où? Mougins, si j'ai bien calculé, attention, j'ai peut-être fait des petites erreurs.
C'est avant calcul de Guillaume.
Mougins partirait avec 6 points, Chamalières avec 5 et Évreux avec 4. Sauf que vu que la semaine prochaine, il y a Évreux-Mougins, c'est-à-dire que Mougins, s'il nous bat 3-0, par exemple, Mougins peut très bien passer à 9 et nous retrouver à 5 points. Mm-hmm. Donc, ce qui serait pas avantageux. Dans le même temps, dans l'autre poule, Vendeuvre, en gagnant contre Quimper, parce que c'est Vendeuvre-Quimper la dernière journée, par un 3-0, pourrait aussi partir carrément avec 12 points. Ça veut dire que Vendeuvre serait vraiment favori.
Quasi sûr de monter, quoi.
De toute façon, je pense que personne ne se fait d'illusion et tout le monde pense que Vendeuvre va monter cette année, vu comment elles ont survolé leur poule et avec l'avance.
Une seule montée.
Non, deux montées.
Il y a deux montées.
En fait, les trois favoris, on les retrouve. Hein, c'est Vendeuvre, Mougin et Quimper. C'est les trois qui étaient sur le. Voilà, les trois qui étaient les plus avancés. Voilà, maintenant, il faut espérer qu'effectivement, Évreux, s'il ne se trompe pas de match la semaine prochaine, s'il gagne là-bas, Évreux se mettra en position d'être un des candidats.
Ce qui serait intéressant, c'est qu'Évreux batte Mougin 3-0. C'est un rêve, ouais. Mais ce serait intéressant.
Ouais, tu prends 3 points.
Et que Quimper batte Vendeuvre pendant le même temps, ça resserrerait vraiment le début. Il y aurait 9-8-7, un truc comme ça. Et puis,
ce qui est vrai, c'est le système est un peu.
C'est tronqué, quoi.
C'est un peu tronqué parce que tu compares des carottes avec des choux encore. C'est-à-dire que tu as une poule qui est plus forte et une poule qui est plus faible.
Aussi, ouais.
Voilà, tu te retrouves avec des équipes qui vont avoir plus de points alors qu'en fait tu les as pas joués. C'est pas très cohérent. Je pense qu'on devrait faire mieux effectivement de qualifier les trois équipes, éventuellement neutraliser les matchs joués les uns contre les autres.
Bah, tu repars tout le monde part à zéro et puis voilà, c'est tout.
Ça sera bien. Ouais,
et pourquoi pas carrément une seule et même poule, du coup ça fait deux poules de 10 équipes, c'est ça?
Non, 6 là, ça fait 6 équipes.
Oui,
ça fait
non, mais au début du classement, enfin au début du championnat, il y a deux poules.
Alors justement, en fait, le championnat a été fait en deux poules cette année parce qu'ils ont réuni déjà deux championnats qu'il y avait avant.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il y avait aussi un aussi gros écart, par exemple, avec Romain qui était dans notre poule et qui était complètement. Qui était assez souvent en fraise. Parce que justement, ils avaient regroupé le deuxième niveau et le troisième niveau national. Et donc, du coup, ça a donné ces gros écarts, en fait, de niveau entre tout le monde.
Et par rapport à cette défaite face à Albi, ça sentirait pas un peu la décompression du fait d'être assuré de jouer ces matchs pour la session?
Ah bah si, c'est vrai que c'était un match sans enjeu, hein, le seul enjeu, parce que de toute façon on pouvait pas gagner de points vu qu'Albi est pas qualifié, donc de toute façon ça aurait rien changé à ce niveau-là. La seule chose qu'il y a, c'est le calendrier qui va être différent. C'est-à-dire qu'en finissant premier, on jouait Vendeuvre en troisième, et Vendeuvre, s'ils avaient déjà eu deux victoires avant, tu vois, en phase finale, ils auraient peut-être eu moins de pression, ils auraient peut-être moins fait attention sur le troisième match. Là, maintenant, si on finit troisième, par contre, Vendeuvre, on va les jouer en premier. Et ça va être autre chose. Ça va pas être la même chose du tout. Et donc, faudra voir à ce niveau-là. Donc là, de toute façon, s'ils abattent Mougins, ils ont une chance d'être première quand même. Évreux aussi, c'est ça qu'il faut voir en ligne de mire. En espérant que Chamalières ne gagne pas, parce que Chamalières est devant au classement, est devant Évreux pour l'instant.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est un championnat intéressant pour Évreux, parce qu'en fait ils sont très mal partis, on peut le dire, et ils sont remis déjà en position d'être qualifiés. Donc je pense que déjà on peut dire que le taf est fait par cette qualification. Le petit bonus, ça serait effectivement d'avoir des matchs intéressants à jouer. Bon, il y aura forcément un match intéressant, c'est l'avenue de Quimper, parce que celle-là, je pense que
on l'a déjà fait,
fois. Mais je pense que ça sera plus.
Il y aura de la revanche dans l'air.
Il y a eu quelques petites altercations verbales avant et après. Je pense que ça va repartir encore sur des belles choses.
On rappelle que l'ancien coach d'Évreux est celui de Quimper à l'heure actuelle.
Ouais. Effectivement. Et je crois donc phase finale, ce sera un match aller-retour hein, quand même.
Oui, voilà. Ouais.
Voilà. Donc quand même à préciser. Donc on espère qu'avant réussir à
donc
se remettre.
Il y a encore trois matchs garantis à Évreux à chaque fois.
Voilà, c'est ça. Et donc il y a du taf cette semaine pour affronter Mougins avec le bon état d'esprit et essayer d'aller chercher le maximum possible.
Mais ça peut être salutaire d'ailleurs, hein, parce que effectivement,
oui, ça peut être salutaire.
3-0 comme ça, généralement tu as une remise en question automatique et ça peut effectivement se dire voilà,
un mal pour un bien.
On a tout à gagner là-bas. Il y a pas de pression outre parce que Mougins est favori clairement là-dessus. La seule voilà, si elle joue comme elles ont joué durant tout le mois de janvier et février. Bah,
c'est vrai que la dernière fois qu'elles ont eu ça, c'était la claque prise en Coupe de France quand elles étaient allées justement à Vendeuvre et qu'elles s'étaient pris un 3-2 contre une équipe quand même plutôt plus faible et où il n'y avait pas forcément une cohésion, et la semaine d'après elle battait Chamalières 3-0 d'une manière dont on n'aurait jamais imaginé qu'elle battrait Chamalières aussi facilement, donc c'est peut-être bon aussi pour la semaine prochaine.
Pour conclure sur le VB, vous diffusez un petit sujet mercredi midi?
Ouais, avec quelques réactions. Donc le coach Olivier Lardier, l'ancien directeur du centre de formation, enfin des jeunes, Marc, je ne sais plus son nom de famille.
Bokenkamp.
Oui, c'est ça. Qui était là aussi. Et une ancienne joueuse d'Évreux qui jouait dans l'équipe d'en face, Albi, donc Émilie Schaeffer.
Qui est une super, une brésilienne qui c'est un rayon de soleil, cette fille.
Qui est super sympa et qui a fait un match excellent en dépannant. Pourtant, elle n'était pas à son poste, mais voilà, elle s'est lâchée. Et apparemment, elle fait toujours des bons matchs contre nous. Moi, c'était la première fois que je la voyais.
Ouais, ça, c'est une fille. Je pense qu'Albi, malheureusement, ne repartira pas l'année prochaine parce qu'ils ont des gros soucis d'argent. C'est une fille sur laquelle il faut garder un petit œil parce que c'est un vrai bonheur d'avoir cette fille-là, à la fois au niveau de son talent, sa polyvalence d'ailleurs, et puis au niveau du rayonnement sur un groupe. C'est vraiment une fille très très bien. Une brésilienne comme on les aime.
Donc à retrouver ses réactions mercredi midi, après un sujet sur la...
Ou avant peut-être,
ou avant,
court,
peut-être,
je ne sais pas, on verra bien.
C'est vous qui décidez.
Sur la dernière de l'abordage.
Exactement.
Vous qui voyez. Voilà.
Avant de parler des professionnels de l'ALM, j'avais noté, je ne sais pas si vous l'aviez noté, salut Guillaume, de Pick-up de l'EVB. Je ne sais pas si vous l'aviez noté à Mideuse, le résultat en National 3 de la deuxième équipe de l'ALM.
Non, ce week-end, il ne jouait pas.
D'accord, parce que j'avais une défaite 91 à 92 à Pierrefitte. Mais ça remonte peut-être à une semaine ou deux.
C'était un match qui avait été joué avant, je crois, avant les vacances.
Voilà.
Est-ce qu'on se fait une pause musicale ou on prend le temps tout de suite?
Si vous voulez.
On s'accorde et puis on salue encore Guillaume de Pick-up. Merci à lui d'être venu.
Salut Guillaume de Pick-up.
À bientôt tout le monde pour les playoffs.
Tu vas à Mougins? Est-ce que vas-tu à Mougins?
Oh non, je bosse là le week-end, ça fait un peu loin
c'est
à Mougins
bon,
quand
ouais,
même.
Quand même. C'est bon, hein, c'est bon, l'investissement bénévole quand même.
On se retrouvera pour les playoffs et pendant que j'y pense, les Dragons de Rouen éliminés leur premier tour de playoffs par Épinal aussi, 3-2.
Un championnat, ça dit quoi?
De quoi en championnat? C'est le championnat, c'est les playoffs. Ça y est, déjà en quart, c'est déjà fini pour Rouen et Grenoble qui était premier de la saison régulière.
Pas mal.
Surprise, surprise quoi.
Et ouais.
On repart en musique avec Anachronic Electro Orchestra. Anachronic Electro Orchestra, le morceau s'appelle Emmett. Page LM Basket.
Ouais, alors c'est énorme parce que Philippe et moi on n'y était pas.
C'est
mais,
bien.
Mais on a quand même des éléments.
Vous avez suivi en live.
Parce qu'on a quand même on a un petit peu de vécu.
Il y a des oreilles et des yeux.
Voilà, il y a des yeux, il y a du tapotage de texto aussi entre personnes concernées. Bon, alors on va revenir quand même sur les faits. Il y avait eu une très belle victoire contre Monaco. Puis après, il y avait un déplacement à Lille parce qu'on n'avait pas fait mission depuis. Il y a eu une défaite bien pénible du côté de la métropole lilloise. Voilà. Ensuite, un déplacement à Rouen. On rappelle que Rouen jouait avec un seul US, d'ailleurs, qui nous a fait très mal, qui s'est complètement viandé la semaine suivante, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une autre histoire contre nous.
Il a fait le match de sa saison.
Le match de sa saison, c'est contre Évreux. Il fait un
5 sur 5 à 3 points. Ouais, il 6 sur 6, je crois.
Ils ont eu un pourcentage à 3 points de malade.
8 sur 8 à 3 points, je crois.
Bref, Rouen nous fout une petite culotte. Mais même si on reste dans le match, a priori, les gens, les spécialistes, spécialistes disaient qu'on n'avait pas été décroché, qu'on a quand même, il y a eu des semblants de bagarre, de l'envie de se...
à plus à moins 6 plusieurs fois. Mais bon, c'est
mais bon, c'est la fameuse histoire des matchs à l'extérieur.
Tous les matchs à l'extérieur, il y a toujours des. Déjà, il y a jamais eu un match plein à l'extérieur. C'est ça qui est terrible, c'est que même le premier match qu'on a gagné, il y a jamais eu, il y a eu des trous et tout ça, et pas avoir un seul match plein à ce moment de la saison, c'est quand même inquiétant. Quoi.
Et puis du coup, on recevait Nantes. Alors là, c'était important de voir.
C'était
si
un match
on allait...
de play-off, clairement. Un match d'avant play-off, dire, parce que si tu perdais contre Nantes, bah voilà,
c'était foutu.
Et puis c'est très mal démarré. Hein. Il faut dire qu'ils étaient très en réussite, qu'on n'y était pas en défense a priori. Et à la mi-temps, il y a dû avoir une sacrée discussion dans le vestiaire, puisque derrière, la LM Évreux colle un 29-11 dans le troisième quart, qui permet de passer de moins 10 à la mi-temps à plus 10, clairement. Donc c'était pas trop parce que c'était, ça allait être compliqué. D'ailleurs Rémi Vallin a depuis s'exprimer en expliquant bien que pour lui maintenant chaque match est une finale. Alors après on peut mettre beaucoup de choses derrière cette allusion, cette remarque ou cet avis, mais il est vrai que voilà, Nantes c'était une équipe qui était juste passée devant nous maintenant et qui reste toujours au classement d'ailleurs devant nous, mais qu'il était important de battre.
Et d'avoir le point d'avérage qui était hyper important parce qu'on avait perdu 10 points là-bas. Donc je pense qu'ils seraient largement contentés vu la première période de gagner déjà contre eux, mais en plus de ça ils ont eu la chance, talent, mais il y a eu pas mal de chance aussi parce que t'as un tir de langue à la fin qui est loupé avec peut-être une faute sur lui qui aurait pu faire justement inverser le point d'avérage, mais donc du coup on gagne de 11 points avec donc moins 10 à l'aller, donc tu récupères le point d'avérage particulier et ça peut vraiment, surtout vu le contexte de la saison avec des matchs, aucun match gagné quasiment à l'extérieur, si ça peut se jouer à, je dirais, 50-50, si tu fais 50% de victoire, je pense qu'il en faudra une de plus, mais si tu es déjà à 50-50, le point d'avérage particulier contre l'équipe avec laquelle tu risques d'être à égalité est très important. Et là, notamment, Nantes fait partie clairement des identifiables à ce poste-là, donc voilà. Ils font partie des postulants à la 9e place.
Alors, il y avait la rentrée de Desmond Quincy Jones. C'était son deuxième ou troisième match, troisième de mémoire, où il a aligné quelques minutes.
Il a fait une petite apparition de 8 minutes. Il a fait 8 minutes à Antibes et pas beaucoup
à
plus
Lille,
à Lille. Lille et pas beaucoup plus à Rouen.
Voilà.
Un match à domicile.
Pierre-Étienne Drouot, lui, qui revenait vraiment là quelques minutes, 5-6 minutes contre Nantes, c'était ses premières de mémoire.
Il avait joué à Rouen aussi, 8 minutes aussi.
Très peu, mais il était là. Donc, on se disait que ça allait peut-être amener un petit peu de soleil. Et puis en fait, Desmond s'est blessé. Alors, c'était la grande crainte sur les réseaux sociaux de savoir si. La grande crainte, en même temps, on ne l'avait pas vu de l'année, ce pauvre.
Ouais, c'est ça, on le découvre. C'est un joker, hein, c'est bien. C'est comme si on avait un joker à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est très positif. Et donc, je l'ai croisé tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, chez le kiné. Et donc, c'est plutôt. Lui, il est rassuré. Il a une douleur musculaire dans le dos qui va nécessiter 8 jours d'arrêt. Donc, ça, on peut penser que raisonnablement, il sera là, non pas le prochain match mais celui d'après, ça, il va pouvoir reprendre assez rapidement. C'est une saison difficile pour lui, c'est assez galère parce que tu arrives dans un club où tu joues quasiment pas de la saison, mais par contre c'est bien.
T'arrives peut-être au bon moment aussi.
Le mauvais moment surtout c'est que là on va pas l'avoir pour Toulon,
pour Poitiers.
Poitiers, je vais tout long, c'est Poitiers.
Bientôt.
Donc ça va être un match important avec Babacar Niang qui est toujours out. Donc on va tourner avec trois intérieurs.
On s'en est quand même bien tiré la contre Nantes où il y a quand même dans la raquette Durham.
Ouais, bon,
on rappelle que c'est d'ailleurs Michael Var qui a été élu meilleur joueur du match selon les statistiques, même si au final on pourra penser aux 8 passes décisives quand même de Kosé et puis au match plein a priori de Lau Konaté. D'ailleurs, il n'y a pas de secret, cette année, quand Lau Konaté était au taquet, on a perdu peu de rencontres. Une grosse défense aussi de Guillaume Constantin sur le joueur adverse. A priori, Isaiah Cordaigné aussi, qui n'a pas fait un gros match en attaque, mais un gros match en défense, qui a bien pris le relais.
Ça, c'est bien.
Je ne sais plus comment il s'appelle, l'Américain qu'ils ont marqué à la culotte, Constantin, lui. En attendant, on est juste derrière Nantes au classement, mais on joue Poitiers qui, eux, sont derrière nous. Où là, il ne faudra pas se louper vendredi. Clairement.
C'est là-bas ou c'est à Évreux ?
Ça va se jouer vendredi à Évreux. Un match important. Alors bon, oui, tu l'as évoqué, c'est du grand n'importe quoi à l'extérieur. D'ailleurs, Rémi Vallin disait bien que si on avait été à l'extérieur avec cette entame de match contre Nantes, on l'aurait perdu, très certainement, cette rencontre. Donc il y a eu une réaction en seconde mi-temps. Maintenant, ça reste quand même une équipe très fragile et c'est un petit peu décevant parce qu'on est plus trop habitués. Alors, c'est peut-être aussi nos habitudes de voir une équipe combative du côté d'Evreux qui joue les playoffs tous les ans. Là, il y a encore, bien sûr, des chances. Elle est encore en vie, cette équipe, avec cette victoire contre Nantes. Maintenant, c'est vrai qu'elle est, elle est poussive, elle est fragile, elle est jeune. Et clairement, Philippe, je ne sais pas ce qu'il en pense, mais bon, je reste un petit peu dubitatif. Maintenant, déjà, faisons le boulot contre Poitiers, où on a aussi perdu à l'extérieur cette année.
Bah, oui,
de 8,
oui,
je ne sais plus combien on avait perdu.
Je crois qu'on a gagné qu'un match à l'extérieur. Ouais,
Souffel, le premier.
Ce sera le seul match, ce sera le dernier match à Évreux, et ça sera c'est le seul match qu'on aura gagné. On pourra dire à ce moment-là, voilà.
Alors, bon,
c'est un bon souvenir.
Gentig, qui avait un petit peu été mieux à Rouen, qui s'était fait prendre à partie clairement par coach Valin, qui ne fait pas ça souvent, qu'il avait qualifié de clown quand même après la défaite contre Lille. Là, contre Rouen, il avait eu des statistiques quelque peu plus honorables avec, je crois, 12 points et 7-8 rebonds. Mmh. Là, contre Nantes, il a peu joué. Bah, alors, si on le prend à partie, c'est pas pour le critiquer ni se lâcher dessus. C'est parce que, on rappelle toujours que dans le basket professionnel, les joueurs étrangers sont ô combien importants et que clairement, on a un meneur qui réalise un match sur deux, qui, bon, par contre, lorsqu'il fait ses 8 ou 9 passes décisives, on perd pas de match non plus, il n'y a pas de secret non plus. Alors, il est capable de réaliser de gros scores offensifs, mais pas toujours pour la gagne, et puis il est aussi capable de se louper. Qu'on a James Matisse, qui est le troisième US sur le poste 4, mais qui est à moitié un 5. Bref, clairement, c'est un peu compliqué quand même, cette équipe à Michaelis.
Fatigue, je pense que c'est vraiment le mauvais choix de la saison. C'est bête parce que je pense que c'est un gros potentiel. Ça montre peut-être aussi quelque chose, peut-être les limites du club aussi, en fait, parce que c'est quelqu'un qui est très jeune et qui a besoin d'avoir quelqu'un derrière lui en permanence. Et le club, le staff n'est pas suffisamment étoffé justement pour leur fournir peut-être un diététicien, des choses dans ce style-là. Alors, ils font des petits entraînements perso, individuels, mais bon, ça suffit pas. Le gars, je pense qu'il n'est pas assez pro dans sa tête. Il n'aborde pas les matchs parce qu'on a vu vraiment les vidéos de lui quand il était en collège, collège américain.
Il était dominant.
Il était vraiment dominant, il galopait et tout ça. On ne peut pas revoir ça du tout. Là, on voit qu'il n'est pas en forme physique.
Il n'est pas loin d'avoir la plus petite détente sèche du championnat.
Ouais, c'est quelqu'un qui fait 2m6. Voilà,
il saute 2 cm.
Il saute une crapaud sur une boîte d'allumettes. C'est pas terrible. Et donc, on a du mal à croire en lui. On a du mal à croire en une prise de conscience. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait vraiment à partir de maintenant pour espérer accrocher déjà les playoffs et puis faire quelque chose en playoffs. Parce qu'aller en playoffs, juste histoire de dire qu'on y est, bon, c'est toujours satisfaisant, mais ça ne fera pas avancer beaucoup le
on pourra par ailleurs cause, noter. Quoi. On pourra d'ailleurs noter que, par exemple, sur Nantes, contre Nantes, Rémi Valin fait des choix nouveaux d'axer 5 joueurs sur des temps de jeu forts et conséquents, que Gentig, dès le départ, sans même qu'il ait max de faute ou autre, a très peu joué, mais par contre a été rentable sur son temps de passage, parce qu'il a dû jouer 6-7 minutes et ramener 5-6 points et 5-6 rebonds, donc, ce qui est dans l'absolu très honnête. Mais clairement, là, Rémi Valin, qui a pour habitude d'essayer de faire jouer un temps de jeu équilibré auprès de tout le monde, là c'est plus trop le cas.
Non, je pense que il est passé vraiment. Lui, il est déjà en mode compétiteur et voilà, lui, il veut vraiment arriver à ses fins. Donc, il espère provoquer quelque chose et si le gars n'arrive pas, il restera sur le banc. Ouais, ça, c'est
visiblement, il n'y a pas l'air d'en avoir vraiment besoin en plus de Tig. Puisque sur ces matchs-là qu'on gagne au final...
À domicile, peut-être pas. Mais à l'extérieur, forcément, oui. Parce qu'à l'extérieur, tu ne peux pas gagner un match en ayant le joueur le plus payé qui ne fait rien. On le voit très bien.
Le joueur le plus payé, l'effectif. Ouais. Philippe, justement, moi, je voulais te demander un avis et une pensée. Il nous reste potentiellement un changement ou une rupture de contrat pour potentiellement réengager quelqu'un. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité, le risque? Oui, ça pourrait être un risque, mais bon, on a quand même encore du joueur français qui est frais, qui est là. On pourrait risquer une blessure, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de le... Est-ce que c'est une hypothèse? Le couper, et puis pour même recruter, même limite, un joueur français qui tienne la route. S'il y en avait, j'avoue, là, je dis ça, je connais absolument pas les aléas du marché, je sais pas quels sont les joueurs disponibles. Je me demande si même... Mais peut-être même de prendre un risque avec un autre US qui viendrait d'être coupé de proie ou... Bref, est-ce qu'on pourrait pas, à un moment donné, prendre ce risque-là? Parce que là, l'âge, maintenant, c'est établi. Il est à la rue. Il est pas du tout dans l'investissement, il est pas ce qu'on attendait de lui. N'en déplaise à personne, moi j'aime pas montrer ou pointer du doigt, mais voilà, comme on l'a dit, c'est quand même le plus gros salaire. À un moment donné, faut se bouger aussi.
Il est d'ailleurs, a priori, d'après ce qu'on a tendance à dire, qu'il est à 5 000 euros par mois, ce qui est un bon salaire pour un joueur américain maintenant. Je crois qu'il est plus que ça, en fait. Hein.
En plus. Ouais, non, mais est-ce que ce serait pas possible de prendre ce risque? Est-ce que tu crois que Rémi Vallin se posait la question? Alors, je voudrais pas qu'on soit dans les supputations, hein, mais...
Non, mais de toute façon, c'est clairement... Ça lui a clairement traversé la tête. Déjà, il a eu quand même... Il doit assumer des mauvais choix, hein, Rémi Vallin, parce qu'il a essayé quand même causer Tigue ses deux priorités. Il y a Sanchez aussi. Sanchez, hein. Il s'est planté cette année. C'est la première fois qu'il se plante. Et encore, c'est planté, c'est un bien grand mot, mais il n'a pas réussi le trio de choc qu'il avait eu avec Anna, Wood et Reed. Voilà, ça c'était autre chose. Mais le vrai problème, je dirais, maintenant pour le club, c'est l'argent. Quoi. Ils ont déjà un petit peu tapé dans la caisse, à mon avis, pour faire venir James Mathis à un prix défiant toute concurrence, parce que James Mathis ne gagne pas grand-chose. Ça, faut le savoir, il est venu vraiment plus pour rendre service qu'autre chose, et il avait des propositions plus intéressantes. Il est venu parce qu'il est fusionnel avec Évreux, avec Rémi Vallin. C'est beau, hein, parce que un Ricain qui parle comme ça, et je pense que vraiment, des fois tu sens que c'est un peu du fake, que c'est un peu du baratin. Lui, vraiment, c'est vraiment lui, c'est un endroit où il se sent bien, il se sent chez lui. Quand il arrive, c'est marrant, t'as l'impression de l'avoir vu la veille. C'est quand il était revenu, là, c'était assez sympa. Et
ouais, mais alors, du coup, couper un joueur à 5
alors, mille... le couper, oui, bah, maintenant tu, je dirais, tu... je pense que ça, alors je sais plus jusqu'à quand tu peux le faire, parce que je crois que c'est au moins c'est deux matchs avant la fin, je crois. Ah, tu peux pas le faire en play-off, c'est-à-dire que tu es obligé de le faire avant. S'ils le font, c'est qu'effectivement, ils sauront qu'il n'y aura pas de déclic. Je pense qu'ils l'attendent toujours, on est encore un petit peu loin, on est à 11 matchs de la fin. Je pense qu'ils vont attendre encore un peu.
Quelques matchs, ouais.
Et puis surtout, ils vont essayer de trouver de l'argent s'ils peuvent en trouver.
Parce qu'il y a la possibilité de faire ça, je veux dire, de quand on voit. Parce que
bon. De toute façon, maintenant, ça coûte plus très cher. Hein. Maintenant, il est quasiment payé sur toute la saison. Voilà, il va être payé jusqu'au 31 mai, je crois, ou 15 juin ou 31 mai. Voilà, après, non, fin juin, je crois. Mais voilà, de toute façon, voilà, ça ne change plus grand-chose maintenant. Effectivement, l'intérêt, ce serait peut-être de trouver ce joueur s'il existe.
Parce qu'on
connaît aussi Rémi Vallin. Hein. Rémi Vallin, c'est pas quelqu'un qui va tenter un coup de poker. C'est-à-dire que s'il prend quelqu'un, c'est quelqu'un dont il aura l'assurance qu'il peut apporter quelque chose.
Parce qu'on n'aurait même pas besoin d'un joueur exceptionnel. Je veux dire, étant donné les statistiques que nous apporte Gentil, il n'y a même pas besoin d'un joueur.
Tu vois, je vais te dire un truc. Toi, tout le monde fantasme sur Wood, par exemple, parce que c'est vraiment le joueur. Bon, je pense que Wood, il ne faut peut-être pas y croire parce qu'il est parti dans un autre championnat. Mais un gars comme Achaoulou, qui a été difficile, hein, mais lui, le tonus qu'il avait, c'est exactement ce qui manque à Tigre.
Je suis tout à fait d'accord.
Et tu fous un mec comme lui qui va te faire un peu un chantier dans les raquettes, là, ça peut être vraiment intéressant. Et lui, il n'était pas très cher. Mais bon, voilà.
Affaire à suivre. En tout cas.
Mais bon, il reste 11 matchs.
Ouais.
11 matchs.
C'est encore possible.
Oui, c'est encore possible. Il faut en gagner. Il y a 6 à l'extérieur, 5 à domicile. Les 5 à domicile ne suffiront pas. En plus, ça, on reçoit des clients. Il y a Poitiers là, il y a hier Toulon, il y a Antibes, il y aura Le Portel. Donc, ça sera des matchs.
Et par contre, des gros matchs à domicile, mais des petites équipes, voilà, entre guillemets. Alors, à l'extérieur.
T'as Angers le 3 avril. Celui-là, si tu loupes Angers le 3 avril, c'est qu'effectivement, là, tu pourras.
Parce qu'on va aller jouer à Charleville, on va jouer à Aix. Ouais,
Charleville, c'est pas facile. Aix, on les a joués, je crois, non?
Oui, pardon. Je crois.
Mais non, ça va pas être évident. Ça va pas être évident du tout.
Affaire à suivre.
Ça marche. Affaire à suivre, en effet. Il y a un match
Poitiers, voilà, Poitiers.
Vendredi, tu
Poitiers, y es vendredi, ouais. Bon, j'y suis, ouais.
À la Salomni Sport.
Jolie béquille. Customisé, voilà. Mais il faut espérer. Donc, pareil, un match et un goal à verrage à reprendre. C'est l'ancien club de Guillaume Constantin, donc c'est toujours un match un petit peu particulier pour lui, mais à domicile, ça ne pose pas le même problème. Voilà, et je pense qu'effectivement, il y aura un match. Poitiers n'est pas au mieux cette saison. Ils ont une saison même presque décevante avec le coach adjoint Rudy Nellum, le coach adjoint de l'équipe de France, qui lui pour l'instant n'est pas menacé, alors que franchement ils sont largement en deçà de quand tu vois Monaco qui sépare des trucs, là, tu te dis voilà, c'est curieux.
Et information supplémentaire qui est aussi une insatisfaction depuis le début de l'année, c'est quand même la signature au départ de Jeff Greer qui compose l'effectif de Poitiers. Il faut savoir que ce joueur-là était deux fois champion de France de proie. C'est un joueur marquant du championnat de France français, du basket français. Et bien il est blessé au tendon, il est incertain contre Évreux. Alors même s'il
c'est
est pas
c'est lui qui leur a permis de remonter l'an passé, hein, clairement dans le play-off l'an passé, Poitiers.
Donc du coup c'est peut-être aussi la possibilité d'avoir un joueur important en moins face à nous vendredi. Match à suivre, en tout cas c'est 2600 personnes, hein, Évreux ça désemplit pas, hein, près de 2600 personnes à Samouni Sport contre Nantes.
Bah, c'est vrai qu'à domicile en même temps c'est rarement décevant, c'est ça qui c'est quand même intéressant.
Deux défaites seulement.
Ouais. On a deux défaites, la première contre Boulazac qui s'était jouée dans la dernière minute, la deuxième contre Rouen, voilà, bon, mais bon, c'est... Faut espérer, voilà.
On se retrouve la semaine prochaine. On aura l'occasion d'en reparler après ce match de Poitiers. On reparlera volley, basket,
football, un petit éclairage sur le foot. J'essaierai d'aller voir Passy Evreux la semaine prochaine.
Ah bah tant mieux.
Et on espère qu'aussi on aura un invité.
Ouais, on va reprendre le rythme.
En tout cas, une bonne fin de journée à l'écoute de Principe Actif. Au programme aujourd'hui, il y a Radio Le Max à 17h, Mixture à 18h, La Factory, si tout va bien, 19h30, ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas passés par nos micros. Et puis It's Time à 20h30 avec un invité, Iya Rouben. Ça doit sûrement être du reggae, mais vous en saurez plus si vous restez à l'écoute de notre antenne. Bonne journée à tous. Ciao.
Bye bye.
Bye.